Vous écoutez, on lit pour vous.
La maladive bouteille d'eau réutilisable. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 16 août 2024 dans Le Devoir. Il y a du Shakespeare dans l'eau. Le règne de la bouteille réutilisable Stanley grand format est carrément menacé. La rentrée scolaire, qui signe la fin de la grande récréation estivale, se fait avec un tas d'accessoires comprenant dorénavant une gourde réutilisable. En 2023, les élèves et les étudiants s'arrachaient donc le contenant surdimensionné, 1,2 litres, de marque Stanley. Les cours de yoga et de pilates, le site The Buy Guide et les réseaux sociaux ont joué un rôle central pour transformer la vieille bouteille, franchement assez moche, en impératrice de la tendance. Le mot « clic » hashtag Stanley Tumblr a été relayé des millions de fois depuis. Rien qu'en 2023, il s'en serait vendu 10 millions d'exemplaires à plus de 60 $ pièce. Quand la compagnie, fondée en 1913 à Seattle, a lancé une version ornée de cœurs pour la Saint-Valentin, des clientes ont fait la file de nuit devant certains magasins pour s'en procurer une. Mais la roue de la surconsommation tourne. Stanley voit à son tour sa position vaciller. Cette fois, la faveur populaire va à la Howala Free Sip, plus petite, 710 ml, et moins dispendieuse, 34,99 $. La nouvelle bébelle en vogue, mise en plus sur son étanchéité réputée à toute épreuve. Des milliers de personnes ont encensé l'objet sur Amazon. J'étais sur le point d'acheter un Tumblr Stanley 40 onces il y a 3 semaines, mais j'ai fini par acheter une bien meilleure bouteille d'eau. Commence une évaluation québécoise diffusée le 8 mai 2024 qui résume pas mal l'état du conflit dans le monde de la fiole folle. La reine sommeur, vive la reine. Propre en bouche. Le capitalisme étant ce qu'il est, l'habitude du consommer-jeté, produit réutilisable compris, s'insère donc jusque-là. Sur les réseaux sociaux, sous le mot « clic » hashtag WaterTuck, on peut voir des collections comptant chacune des dizaines, voire des centaines de gourdes Stanley ou d'autres marques. Il faut revenir à la fonction de base de l'objet qui sert à nous hydrater et s'éloigner de l'effet de mode, dit Amélie Côté, analyste en réduction des déchets à la source au sein de l'organisme Écolo-Équitaire. L'utilisation d'une bouteille d'eau réutilisable est fortement recommandée, mais on ne souhaite évidemment pas démultiplier la quantité de bouteilles personnelles. Il faut en choisir une fabriquée avec des matériaux durables et la conserver longtemps. De la même manière, on ne doit pas non plus acheter des sacs réutilisables en grande quantité. Selon Statistique Canada, en 2021, 9 ménages canadiens sur 10 comptaient au moins un membre possédant une bouteille à remplissage multiple. Selon une étude de la firme Cantis qui date de 2010, l'incidence environnementale d'une bouteille en aluminium, l'équivalent de 1,5 kg de dioxyde de carbone, est moindre que celle des bouteilles jetables après une dizaine de réutilisations. Madame Côté note que la gourde réutilisable a d'autres indéniables avantages par rapport à l'infâme contenant à usage unique. Celui-là n'a que des défauts, ou presque. D'abord, la bouteille jetable pose des menaces à la santé. Une récente étude de l'Université Columbia estime que son eau peut renfermer de 100 000 à 360 000 microparticules de plastique par litre. Ensuite, le contenant a d'énormes répercussions sur l'environnement. Rien qu'au Québec, environ 9 000 tonnes de bouteilles ne sont pas recyclées chaque année, soit l'équivalent de 600 par minute. À l'échelle planétaire, les chiffres jettent l'effroi. Il faut aussi de la matière première pour fabriquer ces nuisances, des usines pour les remplir, des camions pour les transporter et des frigos pour les refroidir. En plus, au Canada, le quart des bouteilles vendues contiennent de l'eau du robinet. On le répète, pas une eau de source exotique à la Évian ou Perrier, juste de l'eau du robinet. Et en passant, l'eau disponible à Montréal est souvent qualifiée d'une des meilleures au monde. Le fait que le secteur de l'embouteillage paye de bien faibles redevances, malgré de récentes hausses des tarifs, pour profiter de ce bien public, rajoute un dernier élément négatif à ce système vaseux. Réduire. Interdire. Au moins, il y a des progrès en vue du côté de la réutilisation. À partir de mars prochain, tous les contenants de boissons seront consignés au Québec, y compris les bouteilles d'eau, ce qui devrait augmenter substantiellement leur taux de recyclage. Avec la réduction et le recyclage des déchets, la réutilisation des objets forme un des trois piliers, les trois R, d'une consommation durable et responsable. Madame Côté nous suggère d'ailleurs de maximiser ce troisième principe en achetant notre bouteille d'eau réutilisable dans les friperies, qui en ont en grande quantité, une autre preuve de la surconsommation de ces beaux et bons objets. La réintroduction de fontaines fonctionnelles dans les parcs et les places publiques est aussi une voie intéressante. Des festivals offrent d'ailleurs maintenant des services gratuits de remplissage de gourdes. La stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 mise d'ailleurs sur l'ouverture de fontaines pour distribuer publiquement l'eau potable. Des gestes ont été posés à certains endroits. L'Université de Sherbrooke ne vend plus de bouteilles d'eau sur son campus depuis 2011. La ville de Prévost, dans les Laurentides, exige une contribution de 10 sous par bouteille d'eau non gazeuse de moins de 750 millilitres vendue sur son territoire, afin de soutenir un fonds de recyclage. Une autre option plus radicale consisterait à bannir la vente de bouteilles d'eau jetable, tout simplement, comme ça a été le cas avec la distribution de sacs en plastique à usage unique. Québec a mené une consultation en 2023 pour mettre en place sa stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques. Les mesures envisagées d'ici 2028 visent l'interdiction de certains emballages et de plastiques à usage unique et de courte vie, ainsi qu'un virage vers un modèle de circulation des plastiques accepté. L'interdiction de la maladive bouteille ne figure pas au programme. Réduire ou même carrément interdire les bouteilles d'eau en plastique, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres éléments à considérer, conclut Mme Côté. C'est bien important d'avoir une vision systémique pour transformer toutes nos habitudes de consommation. La bouteille d'eau en cinq temps. 1. 18e siècle. La mode de la cure thermale s'étend sur tout le continent européen. Les usagers des stations ramènent à leur domicile de l'eau embouteillée pour poursuivre leur thérapie. 2. 19e siècle. La popularité des bouteilles d'eau de source s'étend avec des marques comme Évian et Perrier. 3. 1973. Dupont brevette une bouteille en polytéryphtalate d'éthylène, PET, première à pouvoir résister à la pression des eaux et des boissons gazeuses. 4. Année 1990. De l'eau du robinet purifiée commence à être vendue en bouteille sous les marques Aquafina, PepsiCo, et Dasani, Coca-Cola, afin de concurrencer les eaux provenant de sources précises comme l'eau Perrier. 5. Année 2000. Quatre grands groupes, Danone, Nestlé, PepsiCo et Coca-Cola, contrôlent le tiers du marché mondial de l'eau embouteillée, encore fortement régionalisé. C'était la maladive bouteille d'eau réutilisable, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 16 août 2024 dans Le Devoir.
La rivière ressuscitée, Un texte de Gabriel Bellin, paru le 12 août 2024 dans la presse. C'était un dépotoir en plein cœur de la capitale. C'est maintenant un parc urbain qui rivalise de beauté avec les plaines d'Abraham. En 25 ans, la ville de Québec a fait renaître la rivière Saint-Charles et au passage les quartiers populaires de la basse ville. Québec. Un père manœuvre une poussette sur un sentier gravillonné, laisse passer un coureur et reprend son chemin. Au-dessus de lui se dresse une rangée de pommiers. Ils ont fleuri depuis longtemps et commencent à porter des fruits. C'est juillet. Tout est ici tapissé de vert, entre les saules, les verges d'or, les vinaigriers, les cornouillers, les rosiers rustiques. C'est un matin d'été comme les autres, en basse ville de Québec, sur le bord de la rivière Saint-Charles. Dur de croire qu'il y a 30 ans à peine, cette rivière était un égout à ciel ouvert et que ses berges avaient été largement bétonnées par un maire qui avait été séduit par la Seine parisienne. La Saint-Charles et son parc linéaire sont aujourd'hui transformés, fruit d'un des projets de renaturalisation parmi les plus ambitieux au Québec. Quand on a commencé, il y avait des carcasses d'auto, des pneus, des frigidaires. On a été des années à ramasser. Là, il n'y a plus rien dans cette rivière, raconte Jacques Grantham, ancien directeur des services à l'environnement pour la ville de Québec, qui a participé au projet du début à la fin. C'est à l'embouchure de cette rivière que Jacques Cartier a passé son premier hiver, 1535-1536, canadien. Mais le lustre historique de la Saint-Charles ne l'a pas protégé des conséquences de l'industrialisation 3 siècles plus tard. Quand Cartier est arrivé en 1534, c'était une forêt de chênes. Ça a probablement été envoyé en France pour les bateaux, relate M. Grantham. Après son arrivée, l'industrie navale, les aciéries, les tanneries, loin des quartiers bourgeois de la haute ville, la rivière a été laissée à son triste sort, servant d'égout à ciel ouvert, entourée de quartiers populaires. Des maires ont tenté de l'en sortir dans les années 1960, dans une perspective hygiéniste surtout. Le maire Gilles Lamontagne a fait bétonner ses berges dans l'espoir de lui donner des aires de scène. La décision est aujourd'hui très critiquée, mais l'ancien maire, Régis Labeaume, se porte à sa défense. Ça partait d'un bon sentiment, parce que la rivière était un dépotoir total. Alors il l'avait bétonné, comme ils l'ont fait à Ottawa, lâche M. Labeaume en entrevue. Selon lui, la renaissance de la rivière commence avec M. Lamontagne, même si c'est sous Jean-Paul Lallier que le gros du travail sera fait. C'est que la rivière, nouvellement bétonnée, n'a pas eu le succès escompté. Pour empêcher les badauds de déverser leurs déchets, une clôture frost a été installée à certains endroits. Il y a 35 ans, il n'y avait à peu près pas de végétation ni d'arbres dans ce secteur. Pour les gens de ma génération, qui ont connu les années 1970, ce n'était pas très beau à voir, se souvient l'historien Régent Lemoine. La Révolution Lallier. Dans les années 1990, des groupes de citoyens et d'environnementalistes demandent que la rivière soit assainie et débétonnée. Le maire Jean-Paul Lallier accepte de se lancer dans un projet de renaturalisation qui commence en 1996. Des parois de béton sont retirées. Puisque 80% des berges étaient polluées, la ville décide de remblayer. 1 mètre de terre est ajouté sur les berges. Ça diminuait beaucoup les coûts, sinon ça aurait été énorme, note M. Grantham. Si on creusait, on trouverait probablement encore toute la fondation de l'ancienne terrasse construite dans les années 1970. On ne l'a pas enlevé, ça ne servait à rien. Ça aurait été beaucoup de remblais pour rien. La ville fait venir des Français experts en génie végétal, qui consiste notamment à se servir des végétaux pour faire de la stabilisation. Là-bas, vous voyez les saules? Demande M. Grantham en pointant une berge. Ce sont des fagots qui avaient été installés. Tu fais des boudins avec ça, tu les enterres et les saules retigent dans le temps de le dire. En parallèle, un parc linéaire composé d'un chemin pédestre et d'une piste cyclable est créé. Aujourd'hui, il longe les 32 kilomètres de la rivière jusqu'au lac Saint-Charles. Il est devenu l'un des plus beaux parcs de la capitale. La fin de l'égout. Mais l'élément essentiel de cet énorme projet, et probablement le plus méconnu, est la construction de 12 bassins de rétention le long de la rivière. Avant leur construction, lors des fortes pluies, quand les usines de traitement de l'eau de la capitale ne fournissaient plus, les eaux usées, dont celles des toilettes, étaient rejetées dans la Saint-Charles. On avait le triste record de la rivière la plus polluée au Québec. C'était un égout à ciel ouvert, affirme Jacques Grantham, ancien directeur des services de l'environnement pour la ville de Québec. Ces bassins sont des tunnels de béton de 3 mètres de hauteur sur 5 mètres de largeur. Ils sont enfouis dans la berge et récupèrent les eaux usées lors des grandes pluies. L'eau est relâchée vers l'usine quand la pluie a cessé. Avant les bassins, il y avait 80 débordements chaque été dans la rivière. Il n'y en a plus que 4, selon la ville. Jacques Grantham estime que sur le budget total de 125 millions de dollars pour la renaturalisation de la Saint-Charles, 85 millions sont allés à la construction de ces bassins. Les bassins de rétention, ce n'est pas très sexy politiquement. Tu ne coupes pas un ruban avec ça. Il fallait le faire à l'époque. Et Jean-Paul a eu le courage, lâche Régis Labeaume. Le citoyen moyen va dire « Pourquoi tu ne répares pas les nids de poules et tu fais des bassins de rétention ?» C'était une mesure environnementale spéciale. Un nouveau barrage en 2028. La qualité de l'eau de la Saint-Charles n'est toujours pas parfaite. Le lit du cours d'eau est toujours rempli de sédiments pollués par des décennies de rejets. Il est toujours interdit de se baigner ou de naviguer dans sa partie urbaine. La ville promet toutefois qu'il ne saurait tarder avant que le canot ou le kayak soient permis au cœur de la ville. Québec veut aussi remplacer d'ici 2028 le vieux barrage à l'embouchure de la rivière qui gère difficilement son débit. Le rehaussement du niveau du barrage et la mise à niveau des vannes assureront protection, pérennité et résilience face à l'augmentation des précipitations et du niveau de la marée dû au changement climatique, note une porte-parole de la ville. Le passé industriel n'est pas non plus tout à fait disparu avec la papetière White Birch et ses odeurs nauséabondes à l'embouchure du fleuve. Même s'il reste du travail à faire, la renaturalisation de la Saint-Charles est un succès manifeste, estime Régent Lemoine. Il y a eu un changement radical et ça a permis la revitalisation des quartiers centraux de Saint-Roch, Saint-Sauveur et Limoilou. Sans ça, il n'y aurait pas eu de revitalisation de ces quartiers, croit l'historien. À long terme, c'est le plus grand legs de l'Allier. On le tient pour acquis aujourd'hui, mais sans revitalisation de la rivière, il n'y aurait pas eu de revitalisation des quartiers centraux. Ça va avoir un impact tout le long du 21e siècle. C'était « La rivière ressuscitée », un texte de Gabriel Bélan, paru le 12 août 2024 dans la presse.
la pénurie d'évaluateurs fait craindre des pertes de revenus pour les villes. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 11 juin 2024 dans Le Devoir. Au moment où une crise du logement fait rage, des cégeps peinent à recruter des étudiants souhaitant devenir inspecteurs municipaux en bâtiment. Des villes du Québec doivent ainsi alléger leurs critères d'embauche tandis que leurs inspecteurs, débordés par des demandes de permis à traiter, peinent à épingler les propriétaires qui laissent l'état de leur logement se dégrader ou y effectuent des travaux non autorisés. Troisième et dernier article d'une série portant sur une pénurie aux répercussions multiples. En plus de faire face à une pénurie d'inspecteurs municipaux en bâtiment, plusieurs villes peinent à embaucher des techniciens chargés d'évaluer les propriétés sur leur territoire pour mettre à jour la valeur foncière de celles-ci. Une situation qui soulève la possibilité que des villes perdent des revenus en ne rehaussant pas la valeur de propriété où des travaux sans permis ont eu lieu, a appris Le Devoir. En vertu d'un article de la loi sur la fiscalité municipale, des évaluateurs doivent au moins tous les 9 ans valider l'exactitude des données sur lesquelles se basent les villes pour imposer des taxes foncières aux propriétaires de résidences et de commerces. Or, plusieurs villes sont incapables d'atteindre cet objectif. C'est notamment le cas de la ville de Longueuil, où le directeur de l'évaluation, Marc Lagueux, se dit préoccupé par l'incapacité de ses employés d'inspecter dans ce délai tous les bâtiments de la ville de la Montérégie en raison des défis liés à l'embauche et à la rétention de techniciens en évaluation. Par courriel, la ville de Longueuil confirme que la moitié des quelques 70 000 unités d'évaluation résidentielle sur son territoire n'ont pas fait l'objet d'une vérification de l'exactitude des données dans le délai prévu par la loi. Ces inspections sont pourtant essentielles pour adapter à la hausse la valeur foncière des bâtiments résidentiels où des rénovations sans permis ont eu lieu, relève M. Lagueux. On s'entend que si un propriétaire fait des travaux sans permis et qu'on évalue sa propriété sans la visiter, c'est sûr que la valeur au rôle d'évaluation ne reflétera pas sa valeur réelle, explique M. Lagueux. La ville tirera alors moins de revenus en impôts fonciers de la part de ce propriétaire, puisque la valeur de sa propriété sera sous-évaluée. Quand on fait des travaux sans permis, c'est un peu une forme d'évasion fiscale, résume le fonctionnaire. Il est important de mentionner que l'avènement de la COVID et la rareté du personnel qualifié nous ont forcés à revoir nos façons de faire et à utiliser de nouvelles méthodes d'inspection des propriétés, relève pour sa part la ville de Longueuil. Celle-ci indique avoir mis en place des moyens alternatifs à des visites physiques pour mettre à jour la valeur foncière des propriétés résidentielles et commerciales sur son territoire. À Montréal, par exemple, la ville a décidé de compenser son incapacité à assurer une visite physique de tous les immeubles dans la métropole par d'autres mesures, par exemple par une enquête postale ou par d'autres moyens virtuels, explique le relationniste Gonzalo Nunez. Des propriétaires sont notamment appelés à remplir des formulaires d'autodéclaration qui sont utilisés par la ville pour mettre à jour la valeur foncière de leur propriété, indique M. Nunez. Des pertes difficiles à chiffrer. La ville de Montréal confirme d'ailleurs que 49% des bâtiments de 3 logements ou moins et 33% de ceux qui en comptent davantage n'ont pas été inspectés à des fins d'évaluation depuis au moins 9 ans. À Laval, ce pourcentage, tout type de logements résidentiels confondus, s'élève plutôt à 6,3%. On essaie d'aller le plus rapidement possible, mais avec les ressources qu'on a, ce n'est pas possible, relève le président par intérim du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, Patrick Dubois, lui-même technicien en évaluation foncière. La ville perd de l'argent à cause de ça, avance-t-il. Certains bâtiments n'ont d'ailleurs pas été inspectés depuis 20 ou 30 ans, a affirmé au Devoir un employé au service de l'évaluation foncière de la ville qui a demandé l'anonymat par crainte de représailles de la part de son employeur. une situation que cette source associe au roulement fou des techniciens en évaluation foncière qui se plaignent d'horaires et de salaires peu compétitifs. On est en recrutement constant. Les trois villes contactées n'ont pas été en mesure de fournir une estimation des pertes financières associées à cette situation. Un montant estimé serait hypothétique et incomplet et devrait également tenir compte des dépenses supplémentaires associées à une opération de réinspection de l'ensemble des immeubles dans un délai de 9 ans, explique Gonzalo Nunez. Les professeurs Daniel Pilette et Hansal Özdilek du département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'Université du Québec à Montréal conviennent d'ailleurs, eux aussi, que ces pertes sont difficiles à chiffrer. « Je suis porté à relativiser ça », souligne Mme Pilette, qui rappelle que c'est la valeur des terrains qui s'apprécie le plus dans les quartiers centraux, indépendamment de la valeur des bâtiments qui y sont construits. Une profession en perte de popularité. Joint par courriel, 4 cégeps qui offrent un programme technique spécialisé en évaluation immobilière ont fourni des données qui témoignent d'une baisse du nombre de nouvelles inscriptions à cette formation dans les dernières années. La moyenne des inscriptions a notamment été de 18 depuis 2019 à ce programme au campus Notre-Dame-de-Foy, tandis que ce nombre s'est élevé à 14 en 2023. C'est un programme qui demeure méconnu chez les jeunes. Pourtant, le salaire et les taux de placement sont des plus intéressants, relève le responsable des communications du collège privé, Jean-François Lebrun, qui entend continuer à faire la promotion de cette formation afin d'attirer plus de gens dans le domaine. Le nombre de nouveaux étudiants intéressés par ce programme est par ailleurs en baisse constante au collège Montmorency, à Laval, depuis 2019, tandis qu'à Montréal, l'Institut Grasset n'a relevé aucune nouvelle inscription à ce programme entre l'automne 2021 et 2023. L'arrivée de la COVID, le plein emploi et la hausse des salaires nous a frappés durement pour les inscriptions à la formation continue, constate le responsable des communications pour ce collège privé, Jean-François Leduc. L'établissement fait toutefois état d'une forte reprise de l'intérêt pour ce programme, auxquels 21 étudiants se sont inscrits à l'hiver 2023. Ce nombre d'inscriptions grimpe à 25 en prévision de l'automne 2024, de quoi donner un peu d'espoir aux employeurs. C'était « La pénurie d'évaluateurs fait craindre des pertes de revenus pour les villes », un texte de Zacharie Goudreau, paru le 11 juin 2024 dans Le Devoir.